Journal présenté par Anne-Laure Chouin. Bonsoir Anne-Laure.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Ça n'est pas un plan de charité, c'est un plan qui permettra de sortir de la pauvreté. Promesse faite tout à l'heure au Musée de l'Homme par Emmanuel Macron. Le président de la République présentait ses mesures contre la pauvreté avec cette annonce notamment, la création d'un revenu universel d'activité, analyse et réaction dans ce journal. Un geste important et hautement symbolique, le chef de l'État a également demandé pardon à Josette Audin, la veuve de Maurice Audin, militant communiste tué par les militaires français en Algérie en 1957, reconnaissance de fait de la responsabilité de l'État français dans la torture. En Espagne, les parlementaires espagnols ont acté par un vote cet après-midi l'exhumation des restes du dictateur espagnol Franco, signant la fin d'une bataille qui divise toujours les Espagnols. 40 ans après la mort du dictateur, nous irons à Madrid. Et puis grève confirmée chez Ryanair par les syndicalistes de la compagnie aérienne. La direction irlandaise refuse toujours de faire travailler son personnel en respectant le droit du travail local. Une reconnaissance aussi symbolique que celle par Jacques Chirac de la responsabilité de l'État français dans la rafle du Veldiv. C'est en tout cas ce que pensent plusieurs historiens. De la reconnaissance donc ce jour par Emmanuel Macron de la responsabilité française dans la mort de Maurice Audin. Ce mathématicien communiste anticolonialiste avait été arrêté à 25 ans pendant la bataille d'Alger en 1957. Il est mort sous la torture de parachutistes français. Cette reconnaissance historique vient clore un combat qui était aussi familial. Le chef de l'État a rencontré tout à l'heure Josette Audin, la veuve de Maurice Audin, et lui a remis en main propre cette déclaration de reconnaissance. Geste présidentiel fort donc et nécessaire. Bonjour Sophie Delpont.
Bonsoir.
Le président de la République a demandé pardon à Josette Audin.
Oui, pardon à Josette Audin qui a aujourd'hui 87 ans, cette femme qui s'est battue toute sa vie pour faire reconnaître la responsabilité des autorités dans la mort de son mari et plutôt satisfaite des mots prononcés aujourd'hui par Emmanuel Macron.
Je l'ai remercié parce que quand même c'est une justice un peu tardive et qui sert plus à grand chose. Mais bon, c'est mieux que rien.
Les propos cueillis par Jérôme Jadot dans un déplacement préparé au millimètre par l'exécutif où chaque mot du président de la République a été pesé avec minutie. Emmanuel Macron reconnaît au nom de la République française que Maurice Audin a été torturé puis exécuté ou torturé à mort selon ses mots. Un moment historique selon les deux députés présents, le communiste Sébastien Jumel et Cédric Villani de La République En Marche.
Je n'emploierai pas le mot de repentance. C'est une démarche de vérité, c'est ça le bon mot. On n'est pas ici pour s'accuser, on n'est pas ici pour se lamenter, on est ici pour regarder les choses en face avec dignité. Reconnaître ce qui a failli, reconnaître ce qui a été des erreurs, et ainsi, par cette reconnaissance, avancer vers une construction apaisée.
André Chassaigne, le chef du groupe communiste à l'Assemblée nationale, salue lui aussi cette initiative d'Emmanuel Macron.
Ce geste du président de la République, je le considère comme un geste fort. Et je pense que ça ne sera pas un geste isolé, parce qu'il y a encore beaucoup de voiles à lever.
Et il espère que les responsabilités de l'armée et de l'État seront clairement établies aussi pour d'autres disparus pendant la guerre d'Algérie grâce à l'ouverture des archives annoncées aujourd'hui.
Merci Sophie Delpont. Alger, de son côté, a pris acte il y a quelques minutes en affirmant que cette reconnaissance par la France était une avancée. Autre annonce très attendue du président de la République, attendue notamment par les 8,8 millions de personnes pauvres selon l'INSEE en France aujourd'hui, le plan pour sortir de la pauvreté dont les mesures ont donc été énoncées ce midi par le chef de l'État. Un plan doté de 8 milliards d'euros, axé sur l'enfance, la jeunesse et le retour à l'emploi. Entre autres mesures, plus de places en crèche dans les quartiers défavorisés, des repas à la cantine pour 1 euro dans ces mêmes quartiers. Au total, un discours d'1h40 et au bout, la surprise du chef, comme l'a qualifié le délégué général d'Emmaüs France, une mesure que personne n'attendait, même si elle a souvent été évoquée, la création d'ici 2020 d'un revenu universel d'activité. Écoutez Emmanuel Macron.
Chaque mot a un sens. Revenu universel d'activité. Un revenu d'abord parce qu'il s'agit bien de permettre à chacun de vivre décemment. Universel ensuite, parce qu'il s'agit de garantir à chacun qu'il disposera, dès que ses revenus passent en dessous d'un certain seuil, d'un filet de sécurité de l'État qui soit à la fois simple, équitable et transparent. Et en fusionnant le plus grand nombre des prestations sociales, du RSA aux APL, nous pourrons enfin garantir un socle minimal de dignité à tous ceux qui doivent en bénéficier. Et puis, activité. Je n'ai jamais cru au revenu universel qui était sans condition d'activité. Avec le revenu universel d'activité viennent donc, en plus de l'allocation, des droits et des devoirs supplémentaires.
Emmanuel Macron, bonsoir Annabelle Grelier.
Bonsoir Anna.
Vous étiez tout à l'heure au Musée de l'Homme, où étaient aussi présentes de nombreuses associations d'insertion ou d'accompagnement. Alors, quelles ont été les réactions à cette annonce, notamment de revenu universel d'activité ?
Une petite surprise en effet, en toute fin de discours, car de révolution copernicienne promise par le porte-parole du gouvernement, il n'y en avait pas après 1h30 de discours. Toutes les mesures égrenées par Emmanuel Macron existent déjà.
C'était presque plutôt un rapport de stage de quelqu'un qui a découvert ce qu'était la grande pauvreté. C'est ce que nous vivons nous au quotidien dans les départements, en essayant d'accompagner les personnes et les publics.
Jean-Luc Glaise, le président socialiste du département de la Gironde, vous l'entendez au départ un peu déçu, jusqu'à ce qu'il entende le mot « universel ». Jean-Luc Glaise, avec 18 autres présidents de département, réclame une loi d'expérimentation sur un revenu de base universel.
Alors, j'ai entendu revenu universel d'activité. D'abord, c'est pas tout à fait, si j'ai bien compris, un revenu universel, puisqu'il est fonction des revenus. L'universalité, précisément, c'est qu'il serait versé à tout le monde. Donc, ça n'est pas le cas. Ça tombe bien, c'était pas ce que nous souhaitions non plus. Nous avions un revenu dégressif. La grande différence avec ce que nous proposions, c'est l'inconditionnalité qui était proposée de notre côté, que lui ne propose pas et qu'il ne veut pas, puisqu'il y a condition, droit, devoir. Par contre, j'ai bien entendu aussi expérimentation dans les territoires. Donc globalement, j'ai l'impression que la démarche que nous avions amorcée a fait que le président de la République a inscrit à son agenda social quelque chose qui s'approche un peu de ce que nous avions proposé.
Donc c'est un peu ça sans être ça, mais n'empêche que tous ceux qui militent ou espéraient une mesure un peu novatrice avaient le sourire. Antoine Dulin de l'association Habitat Humanisme.
On a eu un débat pendant toute la présidentielle sur la question du revenu universel. On réutilise un mot qui est intéressant, le revenu universel d'activité. Donc on sent que le président a changé. Il l'a d'ailleurs dit lui-même, au bout de 15 mois, je me suis rendu compte en rencontrant des personnes en situation de précarité que peut-être j'avais une mauvaise analyse de la chose. Moi, l'espoir que j'ai là-dessus, c'est comment on va pouvoir enfin, pour les 18-25 ans, les faire rentrer dans un dispositif universel et non pas qu'ils soient sujets des dispositifs et jamais considérés comme des sujets de droit.
Alors ce fameux revenu universel d'activité devrait être l'objet l'année prochaine d'un grand débat public et d'arbitrage technique.
Et les enthousiastes pourraient vite déchanter. Didier Dugast de l'Association nationale des créateurs craint le désormais célèbre en même temps d'Emmanuel Macron.
Il y a une vraie belle déclaration d'intention qui nous convient bien. Il peut y avoir une contradiction avec l'obligation d'emploi sur deux offres qui ne seront pas discutables. Ça ne peut pas être compatible avec... Vous allez faire ce qu'on vous dit quand on vous le dit. Là, il y a quelque chose qui ne va pas.
Le vote de la loi pauvreté prévue pour 2020 inclura, c'est désormais inscrit, le revenu universel d'activité.
Merci beaucoup Annabelle Grelier. C'est la dernière journée de procès avant le verdict. Demain, la cour d'assises de Paris, chargée de juger les ex-skinheads accusés de la mort de Clément Méric en 2013 à Paris, a entendu ce matin les réquisitions. Des peines de 7 et 12 ans de prison ont été demandées par l'accusation. Cet après-midi, la parole était à la défense et d'abord à celle de Samuel Dufour, pour lequel les avocats plaident l'acquittement. Le compte-rendu de Florence Turm.
Ce matin, dans son réquisitoire, l'avocat général a souligné la circonstance aggravante des violences en réunion et surtout l'action indivisible du groupe. Tout le monde dit peu importe. Contre-attaque Julien Fresneau, l'avocat de Samuel Dufour. Moi, j'ai tendance à penser le contraire. Vous avez face à vous des gens qui n'ont rien à voir. Ils désignent aux jurés les accusés d'un côté, les parties civiles de l'autre. Des gens qui ont des cadres, la métrique du langage, des intellectuels et puis des manuels. Samuel Dufour, le mot qu'il dit le plus souvent, c'est injustice. Et j'ai beau lui expliquer que ce n'est pas adapté, il ne comprend pas. Mais la première certitude de ce dossier, c'est qu'il n'a pas commis de violence sur Clément Méric. L'autre vérité, c'est que ce groupe-là a eu peur. La vraie question, poursuit l'avocat, c'est de savoir qui a mis le premier coup, et nous ne le savons pas. Samuel Dufour n'a jamais été un meurtrier, enchaîne son confrère Antoine V. Il n'était pas venu pour casser du rouge, mais pour faire les courses. Il prend à son tour le contre-pied de la théorie de l'avocat général. Parfois, dans une rixe, la violence de l'un se mélange avec la violence de l'autre, mais dans la scène unique, où l'on ne peut pas préciser le rôle de chacun, cette scène unique n'est pas opérante dans ce dossier. Les jurés prennent des notes, les magistrats aussi, c'est tout l'enjeu de la décision qui sera rendue à l'encontre de Samuel Dufour. Là, on peut préciser la part individuelle de chacun, conclut Antoine V. Je suis là pour vous demander que Samuel Dufour ne reste pas en prison.
Les mesures prises par l'éducation nationale depuis un an dans le secondaire, quel bilan? C'est la question à laquelle a répondu ce matin le principal syndicat des chefs d'établissement du secondaire, le SNPDEN, pour sa conférence de rentrée. Selon ses proviseurs, les mesures comme l'aide aux devoirs par exemple ne sont pas faciles à appliquer sur le terrain, souvent faute de moyens. Bonsoir Hakim Kasmi.
Bonsoir Anne Lorchouin.
Mais la principale difficulté de cette rentrée reste Parcoursup, qui a mis en difficulté des milliers de lycéens.
Et oui, ainsi il reste encore 3000 bacheliers sans affectation, dont les trois quarts sont issus des bacs pro. Les problèmes subsistent encore pour ceux qui sont en liste d'attente. Ils sont au moins encore 10 000, comme le montre le sondage réalisé en interne par le SNPDEN. Philippe Vincent, son secrétaire général.
Les collègues interrogés, donc des proviseurs de lycée source, lorsqu'on leur a posé la question, seulement 22% d'entre eux nous répondaient « Tous mes élèves ont trouvé une solution ». Mais quand même, 80% d'entre eux disaient « Nous avons encore des élèves sans solution » à la date de l'enquête, c'est-à-dire entre le 28 août et le 3 septembre.
Autre réforme qui inquiète les chefs d'établissement, celle du bac qui concerne les élèves entrés en seconde. Ils doivent choisir à la fin de l'année des spécialités, 12 en théorie, dans la réalité ça devrait être que 7. Mais là aussi, les programmes ne sont toujours pas prêts, comme nous l'explique Philippe Vincent.
Pour l'instant, on est encore dans la boîte noire. L'objectif, c'est qu'on en sorte assez rapidement. Et pour nous, le rendez-vous, il est clairement au début de l'année civile 2019. C'est-à-dire que si on veut considérer que les élèves puissent faire des choix éclairés à la fin du second trimestre scolaire, il faut qu'on puisse donner une information assez solide aux familles et aux élèves à partir de janvier 2019. Le ministère tiendra-t-il son calendrier? Ça, c'est une autre question.
Quant aux évaluations qui commencent lundi pour les secondes, elles s'annoncent compliquées, faute de salles et d'ordinateurs suffisants. Enfin, l'aide aux devoirs, tant soutenue par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, là aussi, elles s'annoncent compliquées puisque, selon le syndicat, elles devraient s'appliquer seulement dans la moitié des collèges, faute de moyens suffisants.
Kim Kasmi, merci beaucoup. La France est loin de ses objectifs en matière de réduction de gaz à effet de serre et de consommation d'énergie. C'est en tout cas le premier bilan tiré par l'Observatoire Climat Énergie, un mauvais bilan donc alimenté par des chiffres du ministère de l'Écologie lui-même. Cet observatoire compare les objectifs que s'est fixé la France depuis la COP21 et la réalité aujourd'hui où l'on apprend que les émissions de gaz à effet de serre au niveau national ont dépassé l'an passé de 6,7% les objectifs fixés. Bonsoir Véronique Reverotte.
Bonsoir.
Alors cet observatoire Climat Énergie sert à la fois alerter les politiques et le grand public.
Oui, les données de cet observatoire sont aussi bien accessibles par le citoyen lambda que par les politiques. Même état des lieux, il permet à tous de voir si les engagements de la France, donc en matière de climat, sont respectés. Ça se présente sous forme de courbe où l'on voit instantanément qu'en 2017, donc en matière d'émissions de gaz à effet de serre, la France est sortie des clous. Anne Bringot du réseau Action Climat.
On voit par exemple qu'en 2017, la France a dépassé de 6,7% son budget carbone. Et rien ne se passe. Dès qu'on frôle les 3% de baisse du déficit public, le gouvernement entend émoi. Quand on parle d'un dépassement de 6,7% du budget carbone et de
nos émissions
climat,
de gaz à effet de serre, ouais.
Voilà, le dépassement de nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'objectif fixé, eh bien, on voit qu'il ne se passe rien. Et donc, c'est un cri d'alarme pour qu'il se passe quelque chose.
Aux citoyens, donc, de s'informer, de demander des comptes, aussi à ceux qui fixent des objectifs sans les tenir. Pour Mathieu Orphelin, député En Marche, ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas.
Les politiques, dans leur grande majorité aujourd'hui, ont envie de bien faire sur le changement climatique. Mais je crois vraiment que beaucoup n'ont pas conscience de l'écart entre ce qu'on fait et ce qu'il faudrait faire. Et l'intérêt d'un observatoire, c'est effectivement de mesurer ces écarts. C'est essentiel que les politiques, qui vont avoir tendance à se dire ce qu'on fait, c'est déjà pas mal quand ils sont dans la majorité, mais il faut vraiment que chacun réalise aujourd'hui cet écart avec ce qu'il faudrait faire. C'est regarder la réalité en face, c'est pas se désespérer. Et aujourd'hui, sur l'action, beaucoup de politiques sont en retard par rapport aux citoyens.
Voilà, aux citoyens de jouer, l'Observatoire Climat-Énergie, c'est à l'adresse suivante, observatoire-climat-du-6-énergie.fr.
Merci Véronique Reverotte. 18h14 sur France Culture. En Espagne, c'était un vote attendu, mais qui acte politiquement, du moins, la décision du nouveau gouvernement socialiste, le décret autorisant l'exhumation des restes du dictateur espagnol Franco de son mausolée situé près de Madrid. La Chambre a approuvé ce texte par 172 voix pour, 2 contre et 164 abstentions. Signe de la division qui règne encore à ce sujet parmi les Espagnols. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez en avait fait un cheval de bataille. À Madrid, Marie-Hélène Ballesteros.
La moitié de l'hémicycle espagnol a explosé de joie aujourd'hui à l'annonce de l'adoption du décret-loi. 4 mois après son arrivée au pouvoir, le gouvernement socialiste de Pedro Sánchez est en passe d'exaucer son vœu. Exhumer les restes du dictateur Franco, enterré dans la vallée de los Caídos, de ceux qui sont tombés à 50 kilomètres au nord de Madrid. Selon la vice-présidente du gouvernement, Carmen Calvo, l'exhumation aurait dû se faire bien avant, car il s'agit d'une anomalie historique que Franco soit enterré au même endroit que ses victimes. En effet, dans ce mausolée très controversé reposent également plus de 30 000 victimes franquistes et républicaines, la plupart ayant été transférées sans que leur famille soit prévenue. En exhumant les restes de Franco, le gouvernement Sánchez veut en finir avec cette tombe d'État où l'on continue à glorifier sa figure. Une décision qui divise toujours les Espagnols, plus de 40 ans après la mort du dictateur, comme en témoignent les sondages qui ont été réalisés ces dernières semaines par plusieurs journaux espagnols. Des Espagnols qui ont toujours beaucoup de mal à parler sereinement de la guerre civile et du franquisme. Et nul doute que l'exhumation des restes du dictateur va encore soulever les passions et faire couler beaucoup d'encre.
Marie-Hélène Ballestero à Madrid. Le climat social était déjà tendu chez Ryanair. Il risque de se tendre encore avec cette confirmation aujourd'hui. Les syndicalistes de la compagnie aérienne irlandaise maintiennent leur appel à la grève le 28 septembre prochain pour les personnels de cabine. L'objet de ce mouvement qui dure depuis de longs mois, c'est de contraindre la compagnie à faire travailler son personnel en respectant le droit du travail local et non pas seulement le droit du travail irlandais. À Bruxelles, les précisions de Johanna Hochstein.
Ce sera la plus grande grève de l'histoire chez Ryanair, préviennent d'ores et déjà les syndicats. Plus de 150 vols annulés en Belgique. Une partie du personnel de cabine sera aussi en grève en Espagne, au Portugal, en Italie et aux Pays-Bas. Ces salariés demandent de meilleures conditions de travail et l'application des lois nationales. Sarkis Simonian, steward chez Ryanair.
Regardez, mon salaire, il est à 813,87 €. Puisqu'ils déduisent 300 € la formation, ils déduisent 164 € de taxes de je ne sais pas où et 245 € de taxes standard tax qui est des taxes irlandaises. D'où ça sort? Alors que je vis en Belgique, je travaille en Belgique. Pourquoi je devrais payer des taxes irlandaises? On est des esclaves avec des cravates.
Et ces syndicalistes comptent bien ne pas en rester là. S'il n'y a pas d'avancée lors de la réunion des actionnaires le 20 septembre prochain, ils menacent de se mettre en grève une fois par mois. En attendant, ils comptent sur le soutien de la Commission européenne où ils ont été reçus cet après-midi. Yves Lambeau, représentant syndical belge.
Ce que l'on demande à l'Europe, c'est de mettre la pression. Et vous avez des sociétés qui sont pénalisées financièrement, parfois à hauteur d'un milliard d'euros. Mais nous demandons qu'il y ait des pénalités qui soient infligées à Ryanair.
Du côté de la direction, on cherche à minimiser les conséquences de ce mouvement de grève sur les passagers. Et le patron de Ryanair, Michael O'Leary, ne semble pas prêt à céder face à la contestation qui dure depuis le mois d'avril. Il l'a répété hier, « Je ne vais pas m'écraser devant les grève. Vous apprécierez le jeu de mots.
En Méditerranée, plus aucun navire de sauvetage d'ONG ne patrouille au large de la Libye, une absence qui dure depuis le 26 août. La dernière fois que les ONG avaient dû quitter cette zone, 300 migrants au moins étaient morts noyés. Une absence causée notamment, expliquent les ONG, par un climat européen qui s'est tellement durci qu'il est devenu difficile de porter secours aux migrants qui prennent la mer, Marie-Pierre Véran.
Elles sont découragées par les politiques restrictives européennes, Italie et Malte en tête, qui ont fermé leurs ports, sans oublier les tracasseries judiciaires et les multiples inspections administratives du harcèlement, dénonce Médecins sans frontières. Plusieurs bâtiments sont sous séquestre. L'Aquarius, qui devrait bientôt reprendre la mer, a dû changer de pavillon et ne sait toujours pas où il débarquera les futurs rescapés. Le climat dissuade aussi les navires commerciaux ou de pêche de se dérouter pour secourir les embarcations en détresse. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a plus d'ONG que les migrants renoncent à tenter la traversée. Asiba El Sarraoui, conseillère affaires humanitaires pour MSF, dont les équipes sont présentes en Libye.
On sait qu'il y a des départs de la Libye puisque nos équipes ont eu à porter secours à des personnes qui ont été interceptées en mer par les gardes-côtes libyens alors même qu'il y avait des combats meurtriers à Tripoli. Nous étions dans une situation où les migrants se sont trouvés pris dans le feu des différents groupes armés avec les gardes qui les avaient abandonnés sans aucun recours, sans nourriture, sans eau, sans rien du tout. Et la réponse des Nations Unies, de la communauté internationale a été de les bouger d'un centre de détention à un autre en fonction des combats. Donc on joue avec la vie des gens et il est d'autant plus criminel de la part d'États membres de l'Union européenne de les empêcher de fuir en scellant vraiment toute la route de la Méditerranée et en équipant les gardes-côtes libyens pour qu'ils interceptent les gens en mer et enfin en bloquant l'action des ONG.
Le Haut Commissariat aux réfugiés a livré son macabre décompte. L'année dernière, on déplorait un mort pour 42 migrants tentant la traversée. C'est désormais un pour 18, plus de deux fois plus. Une estimation, puisque le départ des ONG signe aussi la disparition de témoins des drames qui se jouent en Méditerranée.
Marie-Pierre Véraud, merci beaucoup. Plus que quelques heures avant l'arrivée de l'ouragan Florence sur la côte est des États-Unis, il a été rétrogradé en catégorie 2. Et puis les Philippines, des milliers d'entre eux sont évacués en ce moment du nord de l'archipel à l'arrivée d'un super typhon avec des pointes de vent à 255 km/h. Plus de 4 millions d'habitants risquent de subir son passage. Le temps de demain en France métropolitaine, le soleil réapparaît, la chaleur aussi de 21 à 31 degrés du nord au sud du pays dans l'après-midi.